Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, direction aujourd'hui une plateforme pétrolière tunisienne au large des côtes de Zarzis. Une situation tout à fait singulière s'y déroule. Il y a 40 migrants clandestins qui sont originaires du Bangladesh. Ils faisaient route vers l'Europe, ils ont fait naufrage, ils ont pu trouver refuge sur la plateforme. D'où la question, que vont-ils devenir? Les travailleurs tunisiens qui sont sur cette plateforme ne veulent pas être mis en contact avec ces migrants, de peur de contracter le coronavirus. Est-ce qu'il faut les ramener sur la terre tunisienne? Est-ce que des équipes médicales doivent monter à bord de la plateforme pétrolière? Ce sont toutes les questions qui se posent et dans l'immédiat, toutes les activités de prospection pétrolière ont dû être arrêtées sur cette plateforme, ce qui pose bien évidemment une question de manque à gagner pour la compagnie qui attend que ce problème soit enfin résolu. Nous l'avions déjà évoqué à de multiples reprises, l'ONU aujourd'hui le pointe du doigt. Il y a des fortifications qui sont en train d'être construites entre les villes de Sirte et de Joufra en Libye, construites par la société militaire privée Wagner. L'ONU dénonce également une reprise d'activité de fret aérien envers des bases militaires qui sont réassorties en armes, en munitions et en hommes. Il y a toujours cette problématique des mercenaires, 11 000 Soudanais, 13 000 mercenaires syriens qui combattent du côté est-ouest mais qui pour l'instant sont dans les casernes du fait du cessez-le-feu. Il n'en reste pas moins que la question du retour de ces mercenaires se pose. Pour l'instant, les Soudanais ne veulent pas partir. Ils disent qu'ils ne sont pas payés. Le cas des mercenaires syriens qui sont du côté turc, eux, ne se prononcent pas. Il y aurait eu quelques retours au pays ou au moins en Turquie. C'est la Turquie, on en est sûr, au pays peut-être. Mais le fait est, c'est que tant que cette situation des mercenaires étrangers ne sera pas réglée, l'ONU estime que le dossier libyen sera extrêmement compliqué à résoudre à l'aube de ces élections législatives et présidentielles qui se présentent à la fin de l'année 2021. Saïd Chanegria, 75 ans, chef d'état-major de l'armée populaire nationale algérienne. Il prend la parole à l'occasion d'une visite et d'une tournée d'inspection dans la deuxième région militaire. On est sur le secteur de Oran. Le chef d'état-major appelle à la vigilance et au sens du patriotisme pour faire face aux défis. Il dit qu'actuellement, l'Algérie traverse une phase cruciale de son histoire. Alors, il ne précise pas exactement ce qui signifie le mot crucial à son entendement. Signalons simplement que les manifestations du Irak, initialement prévues le mardi, ne sont plus autorisées et rien ne dit que celles qui sont organisées pour vendredi puissent se tenir compte tenu du déploiement des forces de sécurité de l'appareil algérien dans les grandes villes du pays pour que les manifestations du Irak ne se produisent pas. Sinon, on commence à en savoir un petit peu plus sur le médiateur de la République, Karim Younes, qui a été remercié suite à un décret présidentiel. Il a été remplacé par Ibrahim Merad. Alors, pour ce qui est des raisons pour lesquelles il a donc été démis de ses fonctions, lui-même s'en dit surpris. Il dit qu'il a appris la nouvelle dans la rue, que l'information ne lui a pas été transmise directement. Selon lui, il aurait dénoncé des formes de corruption, il aurait mis l'accent sur la nécessité de dialoguer avec toutes les franges, la société, d'aboutir à un consensus général national. Bon, vérification en fait, lorsque M. Younes était en fonction, il n'a pas eu de déclaration allant dans ce sens. Mais en tout cas, c'est comme cela aujourd'hui qu'il explique son licenciement des fonctions qui étaient siennes. Mauritanie, l'évolution de la situation sanitaire. Il y avait des rumeurs ces derniers jours. Finalement, confirmation vient d'être donnée de la présence de variants. Il y a 2 cas de variant britannique, 1 cas de variant indien. Rappelons que les autorités mauritaniennes sont en train de collecter de l'argent. L'objectif est d'arriver à obtenir une somme de plus de 2 500 000 dollars pour acheter des doses de vaccins et poursuivre la campagne de vaccination qui a été entreprise. Également en Mauritanie, cette découverte rare, étonnante, un fusil ainsi qu'une importante quantité de balles ont été découvertes au niveau d'une école. Cela s'est passé dans la ville de Nema. Tout à fait étonnant. C'est rare que ce genre de découverte soit faite. Les éléments de la police sont arrivés bien évidemment sur zone pour récupérer les objets dangereux. Une enquête est ouverte pour connaître le ou les propriétaires de ces engins. La Mauritanie qui vient de conclure un accord avec l'Algérie, une convention de coopération qui devrait voir le jour dans les plus brefs délais. L'objectif est de donner un coup de vif au programme de formation conjoint entre les deux pays, donc de la formation, de la recherche scientifique ainsi que de l'échange de données dans le secteur de la santé, dans le secteur sanitaire. Pendant que les combats se poursuivent en Palestine, toujours sans espoir de trêve, alors il existe des rumeurs actuellement, d'aucuns faisant état d'un projet de cessez-le-feu de la part du Hamas. Du côté israélien, on dit avoir déjà rejeté une proposition de trêve, mais dans le doute, les combats se poursuivent avec le cortège de drames, de tués, de blessés et de destructions. Et puis en Syrie, ces informations en provenance du camp de Halol, 60 000 prisonniers, notamment des prisonnières anciennes sympathisante du groupe État islamique. Il reste encore des poches résiduelles du groupe État islamique qu'on a accusé, à raison d'ailleurs, d'avoir créé un État dans l'État au sein même de ce camp de Halol, une opération des Kurdes, opération de sécurité, a neutralisé de nombreux militants du groupe État islamique, a permis de découvrir des armes, des tunnels également pour s'évader des réseaux de corruption auprès des gardes pour pouvoir organiser des évasions. Et bien malgré cette campagne de sécurité menée par les Kurdes, il y a toujours des éléments du groupe État islamique qui font leur loi. Deux femmes réfugiées irakiennes ont été abattues par des inconnus qui sont soupçonnés d'être affiliés au groupe État islamique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a donc ces meurtres. Après l'opération des Kurdes, 6 autres assassinats ont été commis récemment.
Attaque. Combat, guerre.
L'escale du jour nous mène en Afghanistan où l'offensive des talibans se poursuit pour s'approcher et prendre si possible la capitale de Kaboul. Tout cela pendant que se déroulent les opérations de retrait des forces américaines qui devront être achevées, ces opérations, le 11 septembre prochain. Que va-t-il se passer derrière ? Les talibans, tout au long du processus de négociation de Doha, s'étaient engagés à ne plus avoir de relations avec Al-Qaïda. C'est en tout cas les propos qu'ils tenaient alors qu'ils étaient autour de la table des négociations. Vu que maintenant ils ont quitté ces tables de négociation et qu'ils ont rejoint le champ de bataille, la situation diffère grandement. Une agence de renseignement américaine, la Defense Intelligence Agency, la DIA, vient d'apporter des informations qui sont tout à fait préoccupantes et qui tranchent avec l'optimisme mesuré qui existait, mais l'optimisme quand même qui existait précédemment. Aujourd'hui, on apprend que les talibans et Al-Qaïda ont renforcé leurs liens au cours des dernières décennies. Ils continuent de se battre côte à côte contre ce qu'ils appellent l'ennemi venu de l'extérieur, donc les Occidentaux, donc les Américains. L'inspecteur général principal de l'opération Freedom Sentinel a signalé que des dirigeants talibans aujourd'hui sont de plus en plus réticents à l'idée de rompre publiquement avec Al-Qaïda. Ils ne veulent pas le faire, ils préfèrent qu'il y ait une convergence d'intérêts sur le terrain mais pas de communication autour, parce que forcément, si les talibans reconnaissent qu'ils travaillent avec Al-Qaïda, la tournure des événements sera autre. Le département d'État américain du Trésor vient de révéler que Al-Qaïda gagne en force en Afghanistan. Il continue d'opérer sous la gouverne des talibans. Il fait référence, ce Trésor américain, à des renseignements qui montrent que des hauts responsables du groupe Haqqani discutent actuellement d'une nouvelle unité conjointe de combattants qui pourrait être financée par Al-Qaïda. Il faut rappeler que ce réseau Haqqani fait partie intégrante des talibans et ce réseau est étroitement lié à Al-Qaïda. Donc tout cela, mis bout à bout, amène à penser que si les talibans aujourd'hui prennent Kaboul, en tout cas s'ils s'en approchent, ils le font avec le soutien d'Al-Qaïda. Que va-t-il se passer si jamais les talibans font tomber la ville de Kaboul sous leur gouverne? Est-ce que les combattants de Al-Qaïda profiteront de cette nouvelle donne politique en Afghanistan? C'est toute la question qui se pose à la lueur de ces nouvelles informations qui viennent d'être révélées par une agence de renseignement américaine. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve demain pour de nouvelles colères du monde.